rencontre avec alors les quatre membres du jury cinéma de la section des Utopiales cette année. Juste ici, sur ma gauche, Julien Leclerc, réalisateur de Chrysalis. À sa gauche, Fabrice Duvels, président du jury, réalisateur de Calvaire et de Vignane, sorti sur les écrans il y a 15 jours. Le regard rock'n'roll, juste sur sa gauche, Dominique Sonic. Oui, vous irez tous à son concert, rassurez-moi, hein, on est d'accord. Et tout au bout, Franck Vestiel, réalisateur des Dunlog. Alors un jury estampillé genre, ça vient d'où, messieurs les cinéastes, en tout cas cette passion du genre? Qu'est-ce qui a fait que tout petit, la rétine s'est imprimée du cinéma de genre? Franck?
C'est un truc très simple en fait, dans les années 80, début des années 90, quand on a commencé à s'intéresser au cinéma, on a grandi dans un pays qui, faisait du cinéma plutôt pour les adultes. Et le seul cinéma qui s'adressait un peu aux Jones, c'était le cinéma de genre américain. Et l'arrivée du VHS et ensuite du DVD nous a nourris, quoi. Donc tout naturellement, je pense que quand on s'est mis à écrire des histoires et à vouloir filmer des choses, on s'est plutôt inspiré de ce qu'on avait vu étant plus jeune, et voilà quoi. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est dirigé vers ça. Voilà, je crois que là c'est bon.
Julien, tu m'avais dit quand on s'est rencontré pour la tournée de Chrysalis, il y a une étape majeure, c'est que quand les autres sont passés le baccalauréat, toi t'as séché pour aller voir Doberman de Yann Kounen. Fabrice Duvels n'a pas réalisé Doberman. C'est un virage, c'est un geste fort pour un futur réalisateur.
Oui, c'était voilà, l'école c'était pas pour moi, ça me parlait pas trop, et c'était pas une preuve de courage, hein, ça m'est venu naturellement de prendre le train et d'aller au Cinoche voir le Doberman. C'était le 17 juin, je me rappelle. Ouais. Et je l'ai raconté à Yann, parce qu'après, ce qui est génial, c'est que quand tu arrives à faire du Cinoche et tu rencontres d'autres metteurs, parce que c'est pas un club fermé, mais voilà, on n'est pas nombreux. Et quand je l'ai raconté à Yann, ça l'a fait marrer. Ouais. Donc, ouais, c'est cool.
Est-ce qu'il y a une famille du genre, francophone en tout cas, parce qu'on a l'impression, malgré tout, que c'est une... Oui, je dis francophone pour laisser la parole à Fabrice. Tu sens qu'il y a une famille du genre, on a l'impression que vous connaissez tous un petit peu. Vous avez tous tourné, enfin, je sais que Franck a été pendant l'assistant. Enfin, c'est un groupe restreint qui s'est engouffré, voilà, dans cette brèche du genre.
Non, moi je crois pas. Moi je crois qu'on est tous très très différents. Par contre, pour je rejoins Franck, c'est-à-dire que on a tous grandi pratiquement avec les mêmes référents. Donc on est tous issus de cette génération du VHS où, moi je me souviens, j'étais enfant, adolescent, j'étais en pension, je sais que quand je rentrais le week-end, j'avais droit à louer des VHS de films d'horreur. Donc c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses de manière un peu compulsive. Et même si aujourd'hui, que ce soit Xavier qui est pas là, Franck, Julien ou d'autres, je pense qu'on fait des films très très différents, mais en même temps on a cet amour du genre. Mais en même temps, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à un mec là, moi le genre je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, moi je veux pas être défini comme un metteur en scène de genre. Moi je suis un metteur en scène point barre, quoi. J'essaie de faire du cinéma, je fais pas de hiérarchie de cinéma. Enfin, pour moi le genre c'est pas moins bien que le cinéma d'auteur. C'est, enfin voilà, encore une fois, je peux aimer Ozu et Jess Franco de la même manière, et ça ne me pose aucun problème, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cinéma, tout simplement. Beau, ça, non?
C'est super. Je viens d'inventer le cinéma point barre.
C'est le point barre. On a le sentiment, quand même, qu'aujourd'hui, c'est pas facile. On sait que, en France notamment, la télévision est devenue le premier guichet du cinéma et quasiment son premier débouché. On a le sentiment, quand on veut proposer quelque chose de différent sans nécessairement l'estampiller genre, c'est quand même compliqué de trouver sa place et en production et en diffusion. C'est des choses auxquelles vous avez été confrontés chacun ?
Ouais, mais ça a toujours été compliqué, je pense. Enfin, encore une fois, moi, je crois pas qu'on puisse se comparer à qui que ce soit, mais les débuts des grands metteurs en scène qu'on affectionne tous particulièrement dans les années 70 ou 80 étaient aussi compliqués. Voilà, c'est toujours compliqué de faire du cinéma, surtout quand tu fais, quand tu essayes de proposer des choses qui sont autres. Mais je crois que c'est un temps, c'est un chemin, et puis c'est le chemin du public, et puis ça arrivera, quoi, ça arrivera.
Il y avait, ouais, de toute façon, même Carpenter faisait ses films en une vingtaine de jours. Enfin, ça a pas tellement changé. Ce qui est sûr, c'est que on dit souvent que c'est compliqué, mais ça sous-entend que c'est quand même possible. Je parle en France, en Belgique, en Espagne, ça reste possible. Il y a quand même la majorité des pays du monde pour lesquels c'est totalement impensable, quoi. Et ça, c'est... Alors, c'est compliqué, mais on n'oublie pas non plus qu'aujourd'hui, en Russie, c'est juste injouable, que l'Asie, c'est encore une exception, mais que dans toute l'Europe centrale, bah, il n'y a pas de réalisateurs, ou très peu. L'Afrique, c'est quand même un désert. Il y a des réalisateurs, mais qui se battent vraiment, pour lesquels c'est... Enfin, même nos petits budgets à nous sont monstrueux par rapport aux leurs. Et enfin, voilà, quoi. Donc, c'est... Ok, c'est difficile, mais bon, à côté de ça, on descend pas à la mine non plus, et on fait quand même un peu ce qu'on veut. On a quand même une liberté que nous envie quand même pas mal des camarades américains. En gros, on a quand même le dernier mot, quoi. Ce qu'il y a sur l'écran est à peu près ce qu'on avait voulu faire. Et donc, c'est pas... Ouais, bien sûr, c'est... Quand on compare, effectivement, avec celui qui aligne trois comédiens pour raconter une pauvre histoire qui ressemble plus à un téléfilm et tout, on se dit qu'on n'est pas très gâté. Mais sinon, à côté de ça, si on vraiment pour nous être un peu tous baladés dans les festivals et tout, on est quand même un peu chanceux. Enfin, on a quand même un peu de chance quand même.
Tu dis nos petits budgets à nous, grosso modo, Eden Log, par exemple, pour donner une idée au public. On sait que en moyenne, un film français, en moyenne, tout film confondu, c'est aux alentours de 5 millions. Ce qui est, c'est une moyenne. Vous êtes largement en dessous, tous.
Ouais, enfin
Julien, pas.
Julien, non. Mais,
c'est vrai.
Il est maquillé avec Gaumont.
Moi, j'ai Gaumont et j'ai Dupontel qui coûte cher. Donc voilà, ça gonfle tout de suite le budget.
J'ai 1,8 par exemple.
1,8 million pour Eden Log, d'accord. Ouais. Production indépendante, du coup, là, tu passes pas non, par une major.
En fait, c'est compliqué, la production indépendante, elle n'existe pas vraiment en France. Il y a aucun film qui se fait sans Canal déjà, que le budget soit micro ou macro, quoi qu'il arrive. On a pas de, il y en a un qui parle super fort. Hein,
ouais, est-ce qu'on pourrait
qui a la grosse pêche.
Est-ce qu'on pourrait plaquer ce monsieur au sol ?
Non, c'est vrai.
Et nous l'amener saucissonné par ici.
Mais sinon, à côté de ça, non, c'est ouais, on n'a pas en termes de budget, oui, c'est pas colossal, quoi, pas colossal. Mais indépendant, oui, pour revenir à cette nuance-là, non, si Canal dit non, on fait rien. Hein. Y a rien qui se fait en France si Canal dit non, donc c'est le guichet unique. Hein.
Donc ça veut dire qu'il y a aussi malgré tout un formatage obligatoire.
Ah ben. Ouais. Forcément, hein. Ça c'est ça change. Enfin, la chaîne est la même, hein. La chaîne est la même pour tout le monde, hein. C'est-à-dire en gros, tu passes par Canal. Après Canal, t'as les exploitants, et après les exploitants, t'as le DVD, la Fnac, Virgin. Donc de toute façon, t'as pas d'autres moyens de diffusion, quoi. Donc t'es contraint aux mêmes choses, hein. Tu te bats dans les mêmes bacs pour exister à côté des cinq rangées de n'importe quel film ricain qui sort. Donc on est indépendant de rien du tout. Enfin, je pense pas, quoi. C'est plus autonome, mais pas indépendant.
Julien, toi, tu as un parcours particulier, puisqu'en fait, Gaumont a repéré ton premier court-métrage et t'a offert l'opportunité directement du premier long avec un budget conséquent. Aujourd'hui, tu es toujours avec eux. C'est comment ça se passe,
Ouais, alors, budget conséquent à chaque fois... C'est beaucoup d'argent, hein, ça, dans la vraie vie ça représente, quand on parle de même 1,8 million d'euros, ça peut paraître énorme, mais c'est vrai que les je crois que Vignane a été fait pour 4 millions d'euros,
3,5
mais ce qui coûte cher en fait c'est des gens, parce que on engage des gens sur des durées assez longues, il faut payer les charges. Et c'est vrai que toi, quand tu es metteur en scène et que tu visualises uniquement des acteurs dans un décor avec des effets spéciaux, tout ça, ça vient à la fin de la liste. Voilà. Donc c'est compliqué. Évidemment que plus tu as d'argent, plus tu es... Mais si tu veux, après, le problème, c'est que quand on se compare, enfin, sans non plus se comparer la bite vulgairement, mais quand on se compare les budgets, je pense qu'un film comme Eden Log, 1,8 million en indépendant, est impensable à fabriquer, par exemple, comme une major chez Gaumont. Parce que voilà, je pense que un film, enfin, tu vas me couper si je me trompe, mais un film comme Eden Log existe si toute la production et toute l'équipe fait déjà un effort financier sur le projet. Je pense que bah, l'acteur principal, Clovis aussi, a été foutu à l'amende. Mais ces films-là existent à travers cet effort-là, cet effort de guerre. Sauf que l'avantage d'être chez Gaumont et d'être estampillé, étiqueté Gaumont, moi, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas dire aux techniciens avec la marguerite qui clignote derrière... on n'a pas de thunes, chose qui est vraie, hein, tu vois. Moi, si tu as un euro en indépendant, tu ne le dépenses pas pareil que si tu as un euro quand tu es chez EuropaCorp ou UGC ou Gaumont. Parce que tu as toujours l'image voilà, de la major, machin, sauf que nous, en tant que metteurs, quand on nous donne 7 euros, bah, faut se démerder de la même façon. Donc, tu vois. Donc évidemment, le budget de Chrysalis, il a gonflé un peu, il est annoncé à 8-6 partout, sauf que le coût réel du film, c'est 6. Voilà, c'est 6 millions d'euros. Donc moi, je l'ai fait avec 6 millions d'euros. C'était confort dans le sens où c'est un film de studio. On était dans des studios chauffés, éclairés. On a construit pratiquement la majorité des décors. Donc c'est... Puis voilà, c'est un film aussi où on a quand même un petit casting. Dupontel, Marthe Keller, tout ça, c'est des gens qui ne viennent pas gratuitement.
Et ça, j'imagine que la major, de toute façon, te demande, quoi qu'il arrive, un casting. On sait que là, en ce moment, tu es en train de travailler sur L'Assaut,
ouais.
qui va relater la prise d'otage de Marignane.
Ouais.
J'imagine que pour débloquer du budget, on va te demander nécessairement un casting, ce qui est un casse-tête justement pour toi si tu en as
ouais, pas. Oui, sauf que là sur L'Assaut c'est différent. C'est que moi je leur ai annoncé tout de suite la couleur en disant que si on prend un cast connu, on loupe le film. C'est comme Vol 93 avec un des passagers où on retrouve Bruce Willis. D'un coup on ressort du film, quoi. C'est pas le film. Alors même si j'ai moins de blé pour faire le film, je pense que c'est un effort nécessaire à la véracité du film, quoi, qui va, enfin, je l'espère, devenir crédible.
Tous les trois, vous avez tourné, tu le disais beaucoup, en festival. On va dire le cinéma de genre, de manière générale, fantastique, science-fiction, c'est quelque chose qui s'exporte bien. Vous êtes bien accueillis, il y a une patte un peu européenne.
Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on crève. Je ne sais pas pour les autres, mais un film comme Vignane, par exemple, il est vendu sur 42 territoires. Donc il y a très peu de films français ou anglais qui sont vendus sur autant de territoires. Et je pense que c'est le cas pour tous les films de genre, enfin dits de genre ou fantastiques. C'est heureusement qu'on a l'international, parce que si on n'a pas l'international, avec les entrées salles, on meurt, quoi. Donc l'international nous permet de faire des films viables et d'équilibrer les pertes, et même parfois de gagner un peu d'argent.
Évidemment, je me tourne vers toi, mais le cinéma de genre, enfin, défrayé la chronique, Calvert avait défrayé la chronique sur des faux débats de censure, etc. C'est pas un peu fatigant de se battre tout le temps là-dessus ?
Bah non, parce que ça sert des gens. Enfin, il suffit de voir le film de Pascal Laugier, par exemple, Martyr. Ben, ça a servi le film, quelque part, cette polémique à la con. Donc, tant mieux pour Pascal, vraiment. Voilà, enfin après, moi je sais pas, moi je comprends toujours pas, mais. Enfin, c'est normal qu'il y ait des gens qui doivent se poser des questions de savoir si c'est interdit au moins de 16, moins de 12, moins de 18. Mais le vrai nœud du problème, c'est pas les censeurs pour moi, c'est les exploitants. Mais ça, c'est un autre débat encore. C'est les exploitants qui sont de plus en plus difficiles, parce que aujourd'hui en France, eh ben, les gens vont au cinéma parce que. Pour se divertir, ça coûte cher, ils veulent avoir des garanties, ils veulent savoir ce qu'ils vont voir, ils prennent plus de risques, peu de risques, et on peut les comprendre. Enfin, on peut comprendre. Je fais la même chose le vendredi soir quand je sors avec ma gonzesse et que je vais au cinéma. Je vais pas pour forcément... Donc, enfin, non, c'est pas tout à fait vrai, mais... Mais donc voilà, les exploitants sont très durs avec nous parce que voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas finalement, tu parlais Franck au départ, de, on est tous venus par la VHS, effectivement, et de, nous y compris, est-ce que cette chronologie des médias qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire de dire on a une exploitation en salle, et puis heureusement derrière on a aussi d'autres supports, je pense au DVD notamment, donc toute cette succession de supports, est-ce que finalement ça boucle pas un petit peu la boucle? Est-ce que les films que vous faites aujourd'hui vont pas générer les envies de demain, si ce n'est que ça va être en DVD? Tu sens quelque chose comme ça, cette deuxième chance, troisième chance, donner un film qui est passé inaperçu en salle.
Tu veux dire, si jamais on influence, nous, une génération suivante?
Absolument.
Ouais, enfin, personnellement, je me vois pas répondre à la question, quoi. On espère que ça...
Bah, le fait, par exemple, c'est... que tu dises, tiens, moi, je suis né avec Délivrance, etc., ouais. Avec Survivance,
ma mère, enfin, tous les films en France. Avec la Délivrance de ma mère, ça, sûrement, ouais.
Mais encore un point commun avec le
ouais,
public.
Exactement, ouais. Non, mais c'est des petites briques. Hein. On espère tous, évidemment, que nos films ils aient une plus longue vie que simplement la semaine où ils restent à l'affiche, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr que le DVD, ça pérennise un peu plus, mais. Non, le truc, si tu veux, c'est que ce public. Qui est quand même assez restreint de ce genre de film. Bon, il est restreint, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'il est restreint partout. Donc, il existe partout. Donc, c'est pour le coup, ça voyage assez vite. Les films voyagent assez vite. Moi, c'est pareil. On a vendu le film dans les mêmes territoires. C'est vrai que c'est plutôt... pour ça, en fait, quand tu bouges un peu, ce qui est assez étonnant, c'est que... Et je te dis ça vraiment dans les chaussettes, hein. Mais c'est comme si, vu de l'extérieur, on n'était plus représentatif du cinéma français qu'on l'est chez nous, en fait. Ils disent, oh, c'est formidable.
C'est vrai.
Oh, c'est formidable, Laugier, enfin, tous ces films-là, machin. On nous parle de nos films comme s'ils étaient représentatifs d'un renouveau du cinéma français. C'est quand même... Parce que voilà, ils en entendent parler plus que la plupart des comédies... Et tout ça, mais voilà, et cette fausse idée circule partout, ce qui nous sert plutôt. Mais...
Non, mais c'est vrai que l'étiquette genre passe les frontières et une comédie avec des acteurs de comédie français très connus, les Japonais, les Indiens, les Américains, ils s'en foutent total, quoi. Ça leur parle pas, puisque on est un très petit pays. Et la chance, c'est vrai qu'avec ces films de genre, c'est d'arriver au Japon, en Angleterre, et de parce que le genre c'est il y a un code universel et que en général, vu nos budgets, on n'est pas appuyé sur un casting lourd, donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas en France. Moi, je pense qu'en France, la case genre, elle est à peu près de 100 000 spectateurs, 100 un gros 100, 120 130 000 spectateurs. Et le reste, voilà, ils se déplacent pas et ils dépensent pas d'argent en salle pour aller voir, chose que je comprends, quoi. Mais c'est vrai qu'après, grâce, voilà, à la Diff Télé, le DVD, la VOD, voilà, le film est visible. Mais c'est vrai qu'après, mais c'est plutôt bien. Moi, je suis content. Je pense qu'on vit tous un peu la même chose quand on a la chance d'être invité dans des gros festivals, que ça soit Toronto. Los Angeles ou même moi j'ai fait Bombay en Inde et ça fait plaisir et comme dit Franck on se retrouve tout le temps à peu près les mêmes réals à l'étranger, quoi, et c'est un peu drôle d'être les ambassadeurs du cinéma français et on se retrouve tous ensemble, que ça soit même avec Xavier Jeans, Florent Milhaud-Siri. Et alors ça fait toujours chier quand ça marche pas chez toi à domicile parce que t'as ta famille et tes amis et que tu vis dans ce pays, mais voilà, c'est comme ça. Mais voilà, la vraie chance, comme on l'a dit au début, c'est que on a quand même la chance d'être de faire un cinéma qui est quand même avec des avances sur recettes, avec des distributeurs, avec des chaînes de télé, enfin il y a des choses, quoi. Quand on voit que les cinémas, même les premiers films de Danny Boyle, qui sont carrément, quasiment produits avec, avec l'argent de la loterie nationale. Enfin, c'est, voilà. On a de la chance qu'il y ait des gens, même dans, en politique, qui soutiennent ça, parce que sinon... Et c'est aussi un peu le problème, c'est qu'il y a trop de films, d'un coup. C'est qu'il y a trop de films, alors je dis pas qu'il faut faire une sorte d'épuration sur les films, mais c'est vrai que c'est le problème qui se passe en salle. C'est pour ça qu'on tient pas 8 semaines en salle. Moi, je peux prendre l'exemple sur Chrysalis, mais Chrysalis qui a pas fonctionné en salle, on avait quand même fait 100 000 entrées première semaine. Donc on se dit, quand tu fais tes premiers calculs, tu dis... Bon, je fais 100 000 entrées première semaine, je peux finir à 300 000, 400 000. Et après, bam, quand tu te retrouves à 12 films par semaine, que la semaine suivante, tu as un James Bond qui vient de bouffer 600 copies. Puis voilà, le nombre de salles, il est assez restreint. Donc, comme on le disait, les exploitants, même s'ils adorent ton film, ben voilà, ils vont préférer mettre un Walt Disney ou un machin, parce qu'il faut que ça rentre. Et c'est une industrie, hein. Il faut évidemment... On aime tous des films, là on se déplace pour voir pour rentrer dans des festivals. Mais les gens en général sont pas trop curieux. Donc, et je comprends, parce qu'un multiplex ça coûte cher, il faut payer les gens, il faut que ça rentre. Donc voilà, c'est un peu le souci qu'on vit tous. Et c'est vrai que c'est violent. C'est violent quand on a passé un an et demi, deux ans, trois ans, cinq ans sur un film, et que tout se joue le mercredi à 14h et que. C'est les résultats du bac puissance 10, quoi. Ça fait mal. Ouais.
J'ai un peu envie d'appeler le public pour se demander s'il n'y a pas une question pour,
Absolument. Dominique Sonic. Est-ce qu'il y a une question? Moi, je suis très content, en tout cas, d'avoir Dominique Sonic. Tu es un habitué.
Moi aussi, je suis super content, mais il parle pas, quoi.
Tiens, tu veux un micro?
Je suis inquiet.
On va lui donner un micro.
On lui en donne deux, même si.
Moi, je suis content d'avoir un regard différent, enfin, un regard en tout cas qui n'est pas un regard de réalisateur sur une sélection. L'année dernière, c'était Federico Pellegrini, des anciens Little Rabbits, des French Cowboys. C'est toi cette année. Donc, tu es déjà venu au festival il y a deux ans. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'un film de genre? Alors, même si on est sur un festival de SF, mais là, les films que tu vas voir sont. On élargit, il n'y a pas seulement de la science-fiction. Qu'est-ce qui te plaît dans ce concept-là, et qu'est-ce que tu attends d'un film de genre?
C'est un cinéma que j'ai toujours assez regardé, on va dire. Donc en attendre quelque chose, c'est difficile de dire quoi. Par contre, j'étais très attentif parce que quant à par exemple au budget et tout ça, il y a des questions que il y a un nombre de choses que je connais pas. Et effectivement, quand il parlait de l'avantage d'être distribué un peu partout et de finalement devenir les ambassadeurs d'un cinéma français, ça n'existe pas dans le rock, en fait, en France en tout cas. C'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire que les groupes suédois, par exemple les Ice, tout ça, peuvent faire une carrière vraiment complètement internationale. En France, à part quelques-uns, genre Daft Punk, justement, qui sortent du genre typique rock, arrive à s'exporter, mais le rock français, ça ne s'est jamais exporté. Je pense que ça n'arrivera jamais. Pourquoi, j'en sais rien. Mais
Johnny, hein, quand même.
Ouais, mais Johnny, ils vont pas tellement en Hollande, par exemple.
Ça veut dire quoi que le fait de, par exemple, on sait que Luc Besson fait du cinéma si possible en langue anglaise pour l'exportation. On sait que plusieurs groupes, et toi d'ailleurs tu chantes aussi en anglais, c'est quoi, c'est une clé supplémentaire pour l'exportation,
pour être exporté d'ailleurs,
j'imagine,
je crois que c'est, en fait c'est au-delà même des groupes, je crois pas que ça vienne des groupes eux-mêmes, puisque il suffit de faire des festivals avec des groupes américains ou anglais pour qu'ils soient eux-mêmes étonnés qu'il n'y ait pas plus de pas connaître plus les groupes français, parce qu'ils les trouvent plutôt intéressants. Je crois que c'est plus un complexe de la part des maisons de disques et sous prétexte qu'elles ne vont pas vendre beaucoup à l'étranger, essayent même pas, en fait. En gros, c'est un peu ça. Et du coup, dans l'industrie discographique, à part les grosses majors, il n'y a pas de relais, en fait. C'est-à-dire que même Universal New York va jamais bosser sur un groupe de rock français. Tu vois, ils vont privilégier, un truc de Variette. Ils restent complètement dans les schémas qui ont été créés il y a 30 ans. Donc ça bouge pas du tout. C'est-à-dire que même le hip-hop, je pense que c'est un peu le même problème. Il y a une espèce de complexe comme ça qui vient plus même des maisons de disques que des groupes eux-mêmes. Ouais.
Toi, tu as eu une expérience de scène. Tu as été comédien avec Jackie Berroyer. Ah oui. Ouais. Cette notion-là qu'évoquaient les trois cinéastes, de se dire, tiens, finalement, on tourne pour des gens qui ne viennent pas nécessairement nous voir, nous, là, et puis on a un écho à l'extérieur. J'imagine que ça doit être extrêmement angoissant pour un artiste de scène. Enfin, c'est un truc qui doit être inconcevable, ce manque de relation avec le public.
Pour la musique, ce serait, oui, c'est un peu plus difficile, effectivement, mais en général, si ça arrive en même temps, quand tu es programmé sur un très très gros festival et que tu es en ouverture, par exemple, tu sais qu'il n'y aura pas la presse, il y aura des gens évidemment, mais tu peux parfaitement être complètement transparent sur ce genre d'événement, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas si le programmateur t'a juste pris parce que c'est un de tes copains. Il ne faut pas s'attendre à grand chose en retour, quoi. Alors si, tu peux dire j'ai joué devant 20 000 personnes, mais il n'y en aura pas trace.
La question, elle est pareille pour tout le monde. Le public, la niche du rock ou la niche du genre, c'est un public fidèle, vous avez le sentiment? Je pense à Fabrice, notamment, on en discutait tout à l'heure, où le public découvre qu'un cinéaste ne fait pas toujours le même film. Vous avez l'impression que le public est fidèle sur ces niches-là?
Je ne sais pas à quoi répondre à ça, Jean-Marc, parce que je ne me pose pas la question comme ça. C'est-à-dire, moi, j'essaie de faire ce que j'ai à faire. Puis après, j'espère que le public suivra. Et c'est sûr que quand... mon premier film, Calvaire, a mis du temps à toucher les gens. Bon, c'est relatif, bien sûr, mais c'est un film dont certains jeunes ont entendu parler ou ont vu et connaissent et de temps en temps apprécient. Donc, ils espèrent le retrouver. Et c'est sûr que Vignane, le film que je viens de faire là, est très différent dans son traitement, même si c'est des films qui sont assez jumeaux, assez. Mais encore une fois, moi je ne veux pas reproduire ce que j'ai déjà fait. J'essaie d'avancer, j'essaie de me mettre en danger, j'essaie de prendre des risques, et quitte à me planter, hein, mais j'essaie de me faire peur. Et c'est aussi pour ça que je fais des films, quoi.
Mais un truc qui est sûr, hein, de toute façon, c'est que je pense pas qu'on puisse imaginer le public comme une espèce de jolie fille à draguer, où on essaierait de faire un film qui collerait et tout ça, machin. À un moment donné, je pense qu'on fait simplement... le public, je pense qu'il est changeant. Je pense qu'en ce moment, il est pas super curieux, quoi. Que ça soit pour la musique, je voyais l'année dernière, la musique, ce qui a vachement vendu, c'est quand même des compilations de chanteurs morts, quoi. Entre la Starac, les Enfoirés, tout
et
ça, Laurie, machin.
Et Laurie, oublie pas Laurie.
Ouais, donc à un moment donné, c'est qui? Elle est belge.
Mort.
Elle est morte?
Non. Elle en a encore pour 30 ans.
Tu m'as fait peur. Et en fait, si tu veux, voilà, les gens sont pas super curieux en ce moment, quoi. Ils se réfugient dans des thématiques qui sont proches d'eux, ils ont envie de retrouver le terroir, alors on nous gonfle à mort avec ça en ce moment, mais bon, moi je me vois pas développer des films de genre de terroir, surtout qu'à l'arrivée je pense qu'ils s'en foutront quand même.
T'auras la OC, c'est sûr.
Comment?
T'auras la OC quand même.
Ah, non, ouais, putain, c'est une bonne idée ça. Un cinéma sous AOC, c'est pas mal ça. Et je pense que dans les années 70, le public était un peu plus curieux, que ça, dans tous les niveaux, quoi, à tous les niveaux. Je sais pas, là, je vois en littérature ce qui cartonne quand même tous les ans, grosso modo, c'est Amélie Nothomb. Enfin, on n'entend pas forcément beaucoup de gens nouveaux, quoi. Et je pense que c'est aussi une histoire d'époque. Et nous, là-dedans, on est franchement des petites bouteilles dans l'eau, quoi. Et on crée pas le courant, quoi. On essaye simplement d'être ce qu'on est. Et puis, à l'arrivée, on se dit... Bon, bah, s'il y en a 15 qui sont intéressés par ce qu'on fait, écoute, c'est toujours ça de prix, hein. Puis on espère qu'ils seront 17 la prochaine fois. Mais franchement, commencer à imaginer, tu vois, comme un espèce de gros monstre à dompter et tout, ça me paraît un peu.
Ouais, mais c'est des boucles, hein. Les années 70, voilà. Puis en même temps, moi, je pense pas qu'il faut être nostalgique, c'est comme ça.
Ouais,
maintenant.
Ouais, non.
Puis voilà, il y a mille et un paramètres, il y a la crise, il y a tout ça. Enfin, je veux dire. Après, ça reviendra de manière ou d'une autre. Enfin, on peut l'espérer, quoi.
Comme ça, c'est valable pour tous les arts, hein, je crois. Enfin, le constat est le même pour tous les arts et l'évolution, elle sera de la même manière pour tous, je crois, plus ou moins, de toute façon.
puis on désespère pas que les gens peut-être redécouvrent le film dans 45 ans, ce qui nous arrange pas trop pour les impôts, mais en même temps,
c'est mieux dans 45 ans. Est-ce que vous avez des questions dans le public pour l'un, l'autre ou tous ensemble ? Oui.
Vendredi 13, monsieur. Non, mais c'est pas jeudi 12, vendredi 13. Non, bah, Xavier est pas là, mais... C'est
moi,
Xavier...
personnellement, ça m'intéresse pas, hein. Je te le dis franchement.
C'est Xavier qui aurait dû vous en parler.
Ouais. C'est des sports individuels, quoi. Je vois pas l'idée d'un collectif ou de je sais pas quoi autour d'un film... Après, je comprends la démarche et je respecte et tout, mais franchement, on a beau se retrouver effectivement, la majeure partie de l'année, on est quand même dans notre coin un peu tout seul et on fait ce qu'on peut, quoi. Mais pourquoi faire ? Pour changer quoi ? Je vois pas vraiment le sens à tout ça, quoi, à donner à tout ça. C'est... Là, c'est une sélection, c'est une histoire de sélection, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays qui cherche à dénicher des réalisateurs et qui vraiment tente de trouver des réalisateurs parmi des courts-métragistes ou des gens comme ça, là, ils peuvent arriver avec un scénario déjà prêt et dire tiens, je trouve que t'as un œil, t'as quelque chose, est-ce que t'as pas envie de réaliser ça ? Et le mec, évidemment, en général, il est plutôt d'accord. Mais en France, par rapport au cinéma qu'on fait, personne ne vient nous chercher. Hein. Donc c'est un petit peu démerde-toi. Hein.
Une autre question ?
Je vois Marc Caro dans l'assistance. Il doit écouter tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ouais.
Est-ce que vous arrivez à vous positionner par rapport à ce cinéma qui est en plein développement, peut-être par des producteurs qui le financent, par rapport à un cinéma français qui finalement n'a pas encore trouvé ses marques pour redémarrer ?
Non, mais le cinéma espagnol, il s'est jamais arrêté, lui. Hein. Le cinéma espagnol a toujours eu des producteurs dans le genre, hein, il s'est jamais arrêté. Hein. Eux, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils font du cinéma de genre et qu'ils ont un cinéma de genre qui existe. Hein. Moi, je pense que c'est des coups de feu dans la nuit. Hein. Alors quelquefois ça touche, mais franchement, je pense que là, par exemple, il y a une vague parce qu'encore une fois, il y a Canal+ qui a ouvert un peu la porte. Alors d'un seul coup, on était beaucoup derrière en fait. Mais très franchement, si demain Canal+ dit il y en a marre ou des choses comme ça, c'est fini. Il y a pas un producteur en France qui va prendre le risque de faire un cinéma. De faire un film sans, encore une fois, sans Canal. Donc de toute façon, non, il n'y a pas de, c'est pas une génération spontanée. Je pense que ces réalisateurs-là existent depuis tout le temps. C'est juste à un moment donné l'accès à la possibilité de le faire ou pas. Et en Espagne, ils sont tellement dans la merde dans la production que de toute façon, ils se débrouillent, quoi. Ils le font et eux n'ont jamais arrêté. Mais c'est beaucoup plus dans leur culture que dans la nôtre. Hein, le fantastique et tout ça, c'est beaucoup plus dans la culture espagnole que dans la nôtre.
Non, moi je suis pas d'accord avec toi.
Moi
je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que la perception du fantastique est très différente. Mais je pense que la France est une vraie terre de fantastique aussi. Et l'Espagne simplement fait un fantastique qui est plus de l'ordre du merveilleux. Tandis que nous, en France en tout cas, ou dans les pays francophones, c'est plus un fantastique qui est de l'ordre du réalisme magique. Mais je crois vraiment que c'est des fantastiques qui évoluent de manière simultanée et qui évoluent aussi. J'étais à CGS là, il y a quelques semaines, j'ai rencontré pas mal de journalistes et eux, ils sont très admiratifs, par exemple, de cette émergence de cinéastes francophones, français, qui débarquent, qui proposent des choses très très radicales. Et on voit très très bien entre l'orphelinat par exemple et entre l'orphelinat et Saint-Ange par exemple, qui sont deux films pratiquement jumeaux, la perception de fantastique et l'orientation de fantastique. Il y a vraiment un fantastique merveilleux et un fantastique réaliste magique. Et je pense que la nuance, elle est là, enfin, de mon point de vue. Hein. Mais je pense.
Il y a 40 films dans l'histoire du cinéma, t'as 40, 50 films. Tu vois.
C'est-à-dire. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il y en a. Ouais.
Je peux vous poser une question. Ça parlait de Canal+ et de la prod de Canal+. Le truc, c'est chez Canal, il y a quelqu'un qui défend le cinéma de genre, ou c'est juste parce qu'en fait, c'est, je me posais la question de savoir leur panel de films, il n'est pas forcément, enfin, le cinéma de genre par rapport à la globalité de l'adhérent Canal+, on va dire, c'est pas forcément énorme, donc il y a obligatoirement quelqu'un qui, voilà.
Bah en fait, il y a un mec qui est en charge du financement de certains films. D'accord. Et qui est typiquement de la même génération que nous.
Et qui est
un mec qui s'appelle Manuel Alduy. D'accord. Et qui lui a dit, moi j'aime ce cinéma là, j'ai envie qu'il existe sur ma chaîne. Et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'avant lui il y avait, non c'est la volonté d'un homme, hein, ça c'est clair. Après encore une fois faut... lui il est content parce que de son point de vue à lui les films qu'il produit font le travail pour non, mais
là,
sa chaîne.
En fait la vraie question c'était est-ce qu'ils avaient prévu ça dans leur panel satellite d'ailleurs Canal fantastique machin, ou si effectivement il y avait un mec qui défendait réellement le... Ouais, c'est ça. Voilà.
Enfin, c'est vrai que ceci dit, Canal a des obligations aussi, hein, de préachat tout genre confondu et de coproduction. Et c'est vrai qu'ils insistent en plus sur cette thématique genre, effectivement. Bon, développement des chaînes thématiques, etc. Il faut quand même fournir malgré tout en film un certain nombre de chaînes thématiques nouvelles. D'où cette notion, je pense aussi, que la télévision devient le premier diffuseur de films et pas que de films de genre, en fait, effectivement. Une autre question ? Oui ? Attends, on n'entend pas du tout.
Ouais,
est-ce que tu peux... Je suis désolé, je vais relayer ta question.
Porte la voix !
Attends, on va leur donner un micro, on va faire ça.
Qui est complètement, enfin, soit absent, soit complètement à côté de la plaque, quoi. Autant, bienvenue chez les Ch'tis, tout le monde en entend parler, autant les films de genre, ben, pas un mot, quoi.
Alors, est-ce que le problème donc, du film de genre vient pas aussi du marketing donc, on traite des films comme Bienvenue chez les Ch'tis, avec énormément de budget, et pas nécessairement pour des films
Si tu veux, c'est... On est tous confrontés à ça quand on fait un film, mais tout le monde va pas le dimanche chez Michel Drucker, quoi. Ça dépend qui t'as dans ton film. Même si tu fais le meilleur film de science-fiction jamais réalisé au monde et que t'as pas ni Cadmerade ni machin, enfin t'as une liste de 15-20 mecs, voilà, c'est aussi ça, c'est beaucoup ça. Parce que maintenant pour le t'as fait un avion, c'est bien. Les médias, c'est quoi? C'est la télévision. La télévision, ils veulent des stars, des gens connus, qui sont proches du public. Non, après, nous, ce qu'on fait, c'est du viral. Tu vois, c'est du viral et un peu de télévision. Mais même en général, le cinéma, il n'y a pas de... Tu vois, à part la plage, je crois que maintenant, c'est le samedi midi sur Canal+, il n'y a pas vraie émission de cinéma. Alors, encore moins de genre, mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus. Tout passe par le net. Et la presse papier, elle est en train de mourir. Donc, tu vois, première, studio, tout ça, c'est... Ça va directement à la poubelle, donc ce qui est plutôt bien pour nous, parce que maintenant, grâce au net, voilà, il y a du viral, il y a de la vidéo, il y a des interviews, il y a des choses plus proches de l'actualité. Enfin, c'est pratiquement du temps réel, donc c'est plutôt mieux. Mais après, voilà, après ça dépend comment t'es distribué, si t'es distribué par Tartempion distributeur ou par Europacorp ou par Gaumont ou par... Voilà, c'est les budgets sont ça peut paraître parfois dérisoire, et c'est vrai que c'est, je pense qu'on est, on est tous un peu, tu sais, il y a un truc, quand t'es réalisateur, c'est que, moi je me rappelle très bien, c'est que mon film sortait le 31 octobre, et genre 4 semaines avant, je vois en bas de chez moi à Paris une affiche, mais 30 mètres par 20 mètres de mon film. Je me dis, putain, mortel, ça y est, ça déboîte. Et je prends la moto, je fais le tour dans Paris. Bon, il n'y en avait qu'une en bas de chez moi. Et ça, c'est un truc, voilà, les mecs, ils te mettent 3-4 affiches là où tu passes. Et, enfin bref, ça c'est une blague, mais c'est, mais voilà, c'est... La visibilité, ouais, elle est difficile parce qu'il y a beaucoup de films, ça coûte très cher. Et si tu veux, maintenant, quand tu mises sur un cheval, regarde l'exemple qui n'est pas un film de genre, mais Faubourg 36, ils s'attendaient à faire 28 millions d'entrées, ils ont mis la purée. Moi, à chaque fois que j'allumais la télé, je voyais le casting, je voyais machin, je voyais l'extrait, j'avais l'impression d'avoir vu le film avant d'être rentré en salle. Et voilà, et au final ça paye pas, enfin, c'est, tu vois, donc il n'y a pas non plus de recette. Les ch'tis, ça arrive une fois tous les 30 ans, hein, la dernière fois c'est la grande vadrouille, donc c'est prochain rendez-vous, il est dans longtemps, donc voilà, il n'y a pas de tout ça, c'est qu'une question d'argent, c'est combien on t'alloue de blé à la distribution et à la promotion de ton film. Après voilà, oui, évidemment il faut être curieux, faut aller voir les gens, faut se bouger, faut faire des tournées province. Je pense qu'il n'y a rien de plus agréable quand tu es réalisateur et que tu es aux rencontres directement du public en salle. Enfin voilà, c'est. Mais tout ça, ça prend du temps. C'est. Voilà.
Le temps qui nous est imparti est dépassé, et pour cause, puisque. Alors je demande d'abord un tonnerre d'applaudissements pour Dominique qui vient de nous quitter parce qu'il est sur scène à 21h, donc évidemment, allez-y. Et puis dans 5 minutes, un des films de compétition dans la grande salle en bas. Merci à vous, messieurs, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous.